Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Petit stream à l'arrache du samedi soir, peinard pour papoter, discuter, tout ça, tout ça. En toute décontractivité. On m'a raconté une blague sur Icard, mais en vrai la chute est pas ouf. Ça passe. Ça passe pour ce... On va mettre ça sur le dos de la fatigue. 4G ou fibre? Ah non, 4G, 4G, hein. J'ai toujours pas d'internet. Si, c'est revenu? Attends. Attends, ma box, elle a arrêté de clignoter. Ça se trouve, ils ont réparé. Le whiff-whiff. Ah, ça a l'air de marcher. Alors, je vais pas changer de connexion pendant le stream sur mon PC, mais. Et vous êtes Jean Massier, le streamer qui regarde du SC2 dans l'après-midi. Mais oui, Algost, je ne regarde que du haut niveau. Tu te téléportes à Bordeaux? Non, 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 je fais l'aller-retour dans la journée demain en train. On peut parler de la nouvelle du siècle et du mouvement de Cazeneuve? Bah, il n'a pas de nom encore son mouvement Bernard Cazeneuve qui veut rassembler la gauche non NUPES. Je sais pas. Faudra qu'il vienne nous l'expliquer sur Brexit. Ça m'intéresse. Est-ce que tu seras en live lundi pour la séance en direct de l'Assemblée? Ouais. Ouais. C'est quand que tu vas refaire des lives aviation? Eh bah pas ce week-end. Pas ce week-end. J'ai pas assez de temps. Pas ce week-end. Ready pour Bordeaux. Ouais, non, carrément, carrément, ready pour Bordeaux. Je fais l'aller-retour dans la journée. Participer au forum de l'IB. Une table ronde à 11h30, tout ça. On va parler des jeunes et du climat à l'heure du digital. Je vous jure que c'est vrai, ils ont utilisé le mot digital dans leur truc de présentation. L'interview d'Edouard Philippe, trop bizarre. Oh. Pas si bizarre que ça. Merci Boomer d'Armor pour ton resub, merci beaucoup. Merci Gear Dulox aussi. Le jeune à l'heure des doigts. Ouais, c'est ça. Bon. On va parler du débat du siècle et tout. Non, mais c'est sympa que l'IB m'invite. Je me suis acheté un mug backseat au plaisir de te croiser un jeudi soir. Ah, très heureux. Merci Pilos pour ton prime. Merci beaucoup. Mais ouais, alors du coup, c'est marrant parce que moi, dans mon tweet, alors je sais pas pourquoi j'ai percé avec un tweet totalement random. 17 000 likes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Un tweet totalement random sur Édouard Philippe, qui a fait 1,8 million de vues. Où je dis que c'est cool que Édouard Philippe parle de sa maladie. Et ça participe à dédramatiser les problèmes de santé, etc. Et ensuite, il y a eu un débat dans mes mentions autour de la question de savoir est-ce que tout n'est que communication, cynisme, stratégie, électoralisme et manipulation. Merci Lucky ID pour ton resub. Merci Philippe Co pour ton resub. Merci Stéphane. Stanislas, excuse-moi, pour ton resub. Et donc du coup c'est un... mais c'est une question intéressante. Est-ce que la politique n'est faite que de gens cyniques qui ne pensent qu'à leur future élection, réélection, qu'à leur impact sur l'opinion publique, etc. Et il y a beaucoup de gens qui répondent oui, ce qui évidemment est pas surprenant. Ça fait référence à la crise de la démocratie, à l'impression, etc., d'une élite corrompue et tout. Oui, pour les gens pas d'accord avec moi, c'est pourtant simple. Le cynisme, c'est l'apanage des autres. Moi, j'ai des valeurs, les autres n'ont que de la tactique. On a combien de temps pour la disserte? Ça revient à demander si le but de la politique n'est que le pouvoir. Ouais, c'est ça. Le pouvoir pour lui-même. Pas le pouvoir pour changer les choses. Le pouvoir pour le pouvoir. Mais encore une fois, c'est pas étonnant, c'est même habituel de dépolitiser ses adversaires politiques en considérant qu'ils ne sont que des êtres de cynisme et de calcul politique, alors que les gens dont on est proche, on estime que eux ont la noblesse de leurs convictions. Parce que c'est plus difficile d'affronter un camp politique dont on estime qu'il est rempli de gens convaincus. C'est chiant même. Attends, les mecs sont convaincus, moi je suis pas d'accord avec eux. Non, mais c'est jusqu'à gauche, c'est pour la bonne cause. Quelqu'un comme Elsa Faucillon me semble sincère. Mais c'est après, c'est évidemment une question de point de vue et c'est tout à fait normal. Mais tu vois, les gens qui pensent qu'Édouard Philippe n'est qu'un être de stratégie, de positionnement et de calcul, qu'absolument tout ce qu'il fait matin, midi et soir est tourné vers son avenir politique personnel, c'est grosso merdo les mêmes personnes qui te disent que Sandrine Rousseau ne fait que des sorties calculées et millimétrées dans les médias pour faire parler d'elle. C'est exactement pareil. Si Édouard Philippe se souvient de l'intérêt collectif, il ne serait pas de droite. Il cherche peut-être pas uniquement le pouvoir pour lui, mais pour la bourgeoisie, ce qui est tout aussi critiquable. Si tu veux, si tu veux. Si tu veux. Je veux pas t'empêcher de voir les choses de cette manière-là. Je pense qu'Édouard Philippe a une idée qui lui est propre de ce qu'est l'intérêt général. Qui peut être différente de la tienne, mais vous n'avez pas le monopole de l'intérêt général. C'est quoi la définition de la bourgeoisie? Ça dépend dans quelle acception tu te places. Ceux qui utilisent le mot le plus souvent sont les marxistes, les matérialistes, qui définissent la bourgeoisie par la possession des moyens de production, pour faire simple. Ah, pardon, oui. La com politique est un outil. Mais la com politique est un outil, bien entendu. Après, moi, ça aussi, c'est un truc. Alors, pour le coup, ça, c'est mon côté. J'ai bossé en politique, j'ai travaillé pour des ministres, pour des élus, pour des camps politiques et tout. Je suis toujours surpris par à quel point les gens pensent, sincèrement, que la communication politique est quelque chose de millimétré. Si vous saviez à quel point elle l'est pas. Si vous saviez à quel point elle l'est pas. Si vous saviez à quel point les politiques sont à l'arrache. Il y en a qui pensent faire des trucs millimétrés, mais qui tapent complètement à côté. Il y a des tentatives de stratégie de communication qui tombent à plat. Il y a des trucs d'opportunité. C'est typiquement, on en avait parlé plein de fois, mais Fabien Roussel, pendant la campagne présidentielle, qui parle sur un plateau télé random, une bonne côte de bœuf, un bon verre de vin rouge, c'est ça la culture française. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, c'était une sortie calculée. Alors, pas du tout. C'est vraiment un truc qu'il a dit, mais random au possible, sur une question de merde en plus. Hein. Et ça a fait un buzz énorme. Et c'est partant de ce buzz qu'il a dit, bah tiens, je vais construire un truc sur ce buzz et tout, et qu'il a continué, qu'il en a remis des couches là-dessus. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, ah, mais le buzz était calculé. Mais non, ça se calcule tellement pas un buzz. Tu peux essayer, mais hop. Après, c'est obvious parfois comme Macron sur YouTube pour séduire les jeunes. Parce que tu crois que Jean-Luc Mélenchon, il est sur YouTube pourquoi? Oui, évidemment, bien sûr, mais pour séduire tout le monde en fait. Merci Altarus. Les interviews de presse écrite, c'est relu en long, en large et en travers. Alors ça dépend lesquels. Déjà, la relecture, c'est pas toujours la règle de base. Et quand bien même, enfin je veux dire la relecture, c'est-à-dire que tu valides ce que t'as dit, mais Et leur taf, c'est de séduire les gens. Bah leur taf, oui, enfin je veux dire, en démocratie, c'est pas un gros mot que d'essayer de convaincre les gens que ses opinions sont les bonnes. C'est-à-dire, c'est pas un mal en soi. Les politiques font la tournée des médias pour essayer de vous parler, pour essayer de vous convaincre que leurs propositions sont meilleures. Leur en voulez pas pour ça. Où est la limite entre convaincre et manipuler? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Quelle est la limite entre convaincre et manipuler? Pour moi, la notion de manipulation renvoie à une notion de, comment dire, de procédé. Merde, j'ai pas le mot. Malveillant. Ouais, une tromperie. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de délictueux dans la manipulation, d'immoral. Malhonnête, ouais, c'est ça, malhonnête, ouais. Mais tout acte de langage est une manipulation. Bah pardon pour la palissade, mais si tout est manipulation, plus rien ne l'est. Tu me l'accorderas. C'est l'intention, la différence. Non, c'est le procédé. Un procédé manipulatoire, c'est à vocation manipulatoire. Enfin, c'est une. Comme essayer de tourner à son avantage les chiffres sur la réforme des retraites. Ce que fait absolument tout le monde dans le cadre du débat, et c'est bien normal. Donc tant mieux. Tout le monde a lu le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Mais chacun en a une lecture différente. Très bien. Dont acte, d'ailleurs, c'est même à ça qu'il sert le corps. Mais j'en reviens à l'intention qui guide les politiques. Moi, je ne leur fais pas le procès de prime abord du cynisme. Je prends les politiques au sérieux et je considère de base qu'ils ont des convictions, qu'ils ont des combats politiques personnels, qu'ils ont un engagement en faveur de leur manière à eux, leur cause, etc. Donc je commence pas par me dire le mec essaie de me manipuler, etc. Je me dis non, mais ce mec-là il défend des trucs. Bon, bah on va l'interroger là-dessus, puis on va le prendre au sérieux. Si leur conviction c'était le pouvoir et la thune, ils feraient pas de la politique. Oui, en plus, oui, tu peux aussi voir le. Alors après, faut faire attention parce que y a aussi des gens qui aiment le pouvoir pour le pouvoir hein, en politique. C'est pas trop naïf. Non, je pense pas que ce soit naïf, parce que, enfin, non, au contraire. Au contraire, enfin, le moteur, ce qui anime une personnalité politique, ce sont ses convictions, avant d'être autre chose. Et que si les politiques cherchent à être élus, ou à bien se placer, etc., c'est pour faire gagner leurs idées, leurs convictions. Je ne pense pas, vraiment pas, que François Ruffin court après le pouvoir. Je pense pas. Je pense pas qu'il rêve de devenir ministre. Par contre, je pense vraiment qu'il est convaincu par ses combats. et qu'il veut les faire gagner et que pour ça, il souhaite devenir ministre ou président ou je sais pas quoi. Est-ce que tu penses que Bernard Tapie était sincère quand il était de gauche?
Oui.
C'est pas parce que c'est pas ta gauche à toi que c'est pas sa gauche à lui, tu vois? Oui, évidemment. Et Valls dans tout ça, mais Valls pareil. Valls, c'est 30 ans de carrière dans le rocardisme, avec une vision qui est la sienne de ce qu'est la gauche. Je viens de prendre deux places pour jeudi prochain, mais je n'ai reçu qu'une entrée, c'est grave. Non, non, t'inquiète, c'est pas grave du tout. Tu vas recevoir un mail de la part de Thomas et tu lui dis et t'inquiète. Les convictions guident l'engagement, mais s'opposent souvent à une analyse rationnelle des situations si elle doit remettre en cause nos préconçus. Ah, mais ça, c'est parce que toute personnalité politique, toute personne en politique fait des compromis avec elle-même. Je voulais savoir si les subs ici financent Baxit ou si ça finit dans tes poches. Ça a fini dans mes poches, mais comme je suis le coproducteur de Baxit, du coup, de fait, oui. On se lance en politique pour des convictions, ça me semble relativement évident. Mais est-ce que certains, au bout d'un moment, n'en deviennent pas cyniques et finissent par jouer un jeu en oubliant leurs valeurs? Ah, c'est possible qu'il y en ait qui soient éloignés de leurs valeurs initiales. C'est aussi possible que leurs valeurs aient évolué. À quoi bon parler politique vu que c'est le capital qui décide en dernier ressort? Bah, n'hésite pas à t'abonner, du coup. Mais là, ça aussi c'est un sujet intéressant, l'évolution des convictions personnelles. Est-ce que ne jamais changer d'avis, c'est mieux que faire évoluer ses convictions au fur et à mesure de son expérience en politique? Quand on voit le changement de camp politique de certains élus, oui, la carrière a pris le dessus sur les convictions. Bah, je suis pas sûr de ça. Changer d'avis, c'est reconnaître qu'on a eu tort. Et ça, c'est pas un point fort en politique. Non, 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 c'est pas forcément. Attention, c'est pas forcément reconnaître qu'on a eu tort. C'est peut-être aussi dire que les circonstances ont changé. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça. Les circonstances ont évolué. On n'est plus dans la même situation qu'à l'époque. À l'époque, je disais ça et j'avais raison de le dire. Mais les circonstances ont évolué et maintenant, je dis ça. Parce que je considère que c'est dans la circonstance ce qu'il faut faire. D'où l'évolution de certains socialistes vers la gauche du PS. Et d'autres vers la droite du PS. C'est exactement ce que vous explique Olivier Véran, Olivier Dussopt, etc., quand vous leur posez des questions sur l'évolution de leurs convictions ou de leur discours en 10 ans. Ils vous disent, mais c'est parce que il y a 10 ans, je pensais ça, parce que la situation m'a amené à penser ça, mais aujourd'hui, les choses ont changé et maintenant, je vois les choses de telle nouvelle manière. Certains sortant de Sciences Po ou de l'ENA semblent entrer dans un parti comme ils entreraient une carrière en entreprise. Ils choisiraient aussi bien un autre parti. Oui, ça peut exister. Après, c'est pas l'apanage des gens qui sortent de Sciences Po et de l'ENA, hein. Donc, c'est pas. C'est normal d'évoluer dans ses convictions, ça fait partie de la vie de chacun. Je suis sûr que vous avez évolué dans vos convictions par rapport à il y a 10 ans ou 5 ans. Et quand je dis évoluer, ça ne veut pas dire changer d'avis, ça veut dire améliorer son opinion, l'affiner. Ce qui peut-être peut vous amener à des conclusions différentes de celles que vous apportiez de prime abord à l'époque. Enfin, tu vois, c'est. Peut-on être social-libéral? Peut-on être persan? Il y en a quand même plein qui ont renoncé à leurs idées. Bah, renoncer à leurs idées, ça dépend lesquelles. Dussopt parle justement de maturité politique lorsqu'on mentionne son changement de bord. Oui. C'est pas un peu dévalorisant par rapport aux convictions défendues par le PS? Ah bah, dévalorisant, c'est-à-dire que lui ne leur accorde plus la même valeur. Il dit j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai mûri. Donc. Ça me fait penser à un truc que disait mon père, qu'à 15 ans c'est normal d'être de gauche et qu'à 40 c'est idiot de pas être de droite. Ouais, ça c'est un peu un lieu commun sur la droitisation des esprits avec l'âge. Le truc c'est que ça a jamais vraiment été. En fait ça correspond à une génération. En fait ça correspond à la génération mai 68. C'est-à-dire ces gens qui étaient au lycée dans les années 60 qui étaient convaincus par le communisme, le maoïsme, etc. Plein d'idéaux. Et qui, dans les années 70-80, se sont convertis petit à petit à une société, à une modernité, et finalement au néolibéralisme, de ces années-là. Donc c'est très ancré dans une génération, la génération Papy Boom, quoi. Puis en plus, enfin, je veux dire, si vous regardez les comportements électoraux des jeunes sur ces dernières années, il y a quand même Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui arrivent très très vite dans le top. Donc parler de gauchisme culturel chez les jeunes, je veux bien, mais sur Internet, éventuellement. Dans les urnes, pas tant que ça. Dans la rue, pas tant que ça. Il y a eu des maoïstes en France dans les années 60. Ah, il y en a eu beaucoup. Ouh là là. Il y a un documentaire qui s'appelle Nos années Mao, que je t'invite à regarder. Qui raconte cette époque-là, les maoïstes français. Qui se sont à peu près tous excusés plus tard d'avoir été maoïstes en disant ouais, tout bien réfléchi, pas ouf. Pas ouf du tout. Il reste Alain Badiou. Il reste toujours Alain Badiou. En plus, c'est normal de vouloir une politique différente quand on a 60 ans de vie devant soi que quand on en a 10. Pas beaucoup de droit à l'erreur dans le second cas. Ouais. Oui, tu peux aussi retourner le truc en disant c'est normal de vouloir une politique différente quand on a 60 ans derrière soi. Quand on a vu les choses à l'exercice et tout. C'est normal que ça fasse évoluer ta perception. De toute façon, les convictions politiques, les opinions politiques, les convictions politiques ne sont rien d'autre que le fruit d'un parcours de vie, toujours. vos convictions, elles sont pas nées, c'est pas inné, hein. Elles sont le fruit de vos rencontres, de votre expérience de vie, de vos observations, de vos lectures, de vos visionnages de vidéos, de vos amitiés. C'est toute opinion est le fruit d'un parcours. Et donc il n'y a aucune raison qu'un parcours ne fasse pas changer une opinion. Où est l'enjeu de tes décisions quand tu es déjà à la retraite avec 10 ans à vivre et peu de considération pour tes descendants? Et ça, c'est chacun est libre de ses propres convictions. Hein. J'ai eu l'ordre de question qu'on retire aux personnes âgées le droit de vote sous prétexte qu'ils vont bientôt mourir. Quelle horreur! Quand t'es vieux, tu défends tes acquis et quand t'es jeune, tu défends tes idéaux. Enfin, faut en avoir des acquis, hein, quand t'es vieux. Notre société est de plus en plus interdépendante, l'idéologie laisse place au pragmatisme. Ouais, ça aussi, hein, le pragmatisme, c'est très marqué, c'est très ancré dans une certaine perception des choses. Enfin, moi, je vais faire mon vieux con, mais j'ai grandi à une époque où il y avait des économistes qui venaient à la télévision tous les soirs nous expliquer que pragmatiquement, il fallait abaisser le coût du travail parce que c'est comme ça que ça marche l'économie et pas autrement. C'est scientifique. C'est scientifique, ma bonne dame. Bon, bah, ensuite il y a eu la crise de 2008, et la crise de 2008, elle a quand même sacrément changé l'ambiance. Du jour au lendemain, t'avais quand même un paquet d'économistes qui venaient à la télé dire « Ouais, alors, l'économie, bon, finalement c'est peut-être pas une mécanique aussi huilée que ça, elle est peut-être aussi faite de choix, et on peut en changer ». Utiliser le pragmatisme pour justifier une idéologie, c'est pas terrible. Ça peut être un argument, enfin je veux dire, j'en parlais avec Antoine Léaumont à l'époque, qui avait créé la chaîne YouTube Le Bon Sens, et qui m'expliquait que c'était une bataille culturelle que la France Insoumise voulait mener sur Internet, pour que le pragmatisme devienne de gauche. C'est-à-dire que le bon sens doit nous emmener vers la gauche. Le bon sens, le pragmatisme, renverser la charge de l'idéologie en disant les vrais idéologues, ils sont à droite. Nous, on est les pragmatiques, etc. Bon, ben voilà. C'est un peu la technique Aurélien Barraud. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ce que dit Aurélien Barraud dans ses interventions, ouais. Et bon, bah c'est un argument comme un autre, hein, c'est très bien. Dont acte. Utiliser le mot pragmatisme pour justifier de fait une idéologie. Mais non, mais on en revient encore une fois. Enfin, après, le mot idéologie, enfin, ça dépend comment tu te positionnes, mais moi, c'est pas un gros mot dans ma bouche. Une idéologie, une cohérence de pensée sur différents thèmes qui découlent d'une même clé de lecture du monde, c'est pas un gros mot. Après, que tu sois convaincu que tes opinions sont une évidence, c'est pas grave non plus, c'est normal. Heureusement que les gens sont convaincus d'avoir raison. Il y a la bonne et la mauvaise idéologie. Idéologie idéologie est une évidence en politique, le mot devrait être réhabilité. Même si tes idées sont ce qui marche le mieux, ça reste pour aller dans le sens que tu veux ou que tu estimes meilleur. Ouais, très bien. Et j'en reviens au fait que les personnalités politiques ont des convictions. Alors idéologiques, vous pouvez utiliser le mot si vous voulez, mais ils sont convaincus que leurs idées vont dans le bon sens, dans le sens que eux souhaitent. Et je pense que c'est pas se rendre service à soi-même que de dépolitiser les adversaires. L'idéologie, c'est quand les gens, ils font comme moi, mais pas avec mes valeurs, donc c'est de la triche. C'est ça. Ils n'ont pas tous la même définition du bien commun. Bah, et heureusement. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait sinon? C'est ça le débat politique. Qu'on n'a pas tous la même définition du bien commun, de l'intérêt général. L'abonnement à Jean Massier, c'est du pragmatisme. Ah, ça. Ça, c'est le bon sens. Moi, je me suis sub à Jean Massier par idéologie. Donc, tous les politiciens bossent pour l'intérêt général. Je pourrais pas parler pour tous les. Merci Albanit, merci beaucoup. Je pourrais pas parler pour tous les politiciens, j'en sais rien. Mais ils sont mus par une vision qui est la leur de l'intérêt général. Ils sont convaincus que leurs idées vont dans le sens de ce qu'ils estiment être l'intérêt général. Voilà. Tous, Christine, tous. Mais donc Olivier Dussopt, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne sont convaincus que la réforme des retraites est une bonne réforme. C'est fou que Jean ait réussi à se faire son trou avec ses propos raisonnables dans un milieu de médias qui marche au buzz et à l'excès. Je suis excessivement modéré. Non, j'en sais rien. Mais merci. Merci cousin Hub pour ton prime. Pourquoi le niveau des pensions est un tel tabou? Bah parce que tout le but de l'assurance retraite, ça a toujours été de permettre aux personnes âgées, aux retraités, d'avoir un niveau de vie équivalent à celui des actifs, pour que en gros, pour que la vieillesse ne soit pas une punition. Et comme on y est arrivé aujourd'hui, on ne veut pas baisser le niveau des pensions des personnes âgées. Voilà. Aucun grand parti ne s'occupe de l'intérêt général, juste de l'intérêt de leurs électeurs. C'est un point de vue très cynique, je trouve. Ça veut dire quoi, intérêt général dans un pays de 68 millions de personnes aux intérêts différents? Ah bah c'est une question de point de vue ça. C'est toi qui dis qu'on a tous des intérêts divergents les uns des autres. Hein. Après, le monde dans lequel on vit n'est-il pas cynique? Bah... Ça va être une question de point de vue là aussi. Est-ce que tu penses que l'accusation de corruption pour Olivier Dussopt va avoir une importante répercussion? Il n'y a pas d'accusation de corruption pour Olivier Dussopt. Le parquet général requiert, enfin, dans les conclusions rendues publiques par Mediapart, il y a le délit de favoritisme. Mais il y a un juge qui va devoir se. Mais il n'y a pas de corruption. C'est du favoritisme. Accusation de favoritisme. Donc il va falloir qu'il passe devant un juge qui tranchera pour savoir si le parquet a raison de voir ou non du favoritisme. C'est quoi la différence entre accusation de favoritisme et corruption? C'est une bonne question. En l'occurrence, le délit de favoritisme, s'il est constitué, ce sera la justice de trancher. C'est le fait que un marché public aurait été attribué. J'utilise du conditionnel parce qu'il est encore présumé innocent. Et que de toute façon, moi je suis pas juge, ni magistrat, ni enquêteur. Olivier Dussopt aurait favoriser un candidat plutôt qu'un autre dans une procédure de marché public. En l'occurrence, sur la gestion de l'eau dans la ville dont il était maire. La ville d'Annonay, la jolie ville d'Annonay. Comment va-t-il faire si la justice le met en examen et qu'ensuite il est condamné pour défendre la réforme? J'en sais rien, ça dépend à quoi il est condamné. Il encourt, je sais plus, c'est 2 ans de prison et 500 000 euros d'amende, je crois. Dans les deux cas, il y a favoritisme, mais avec la corruption, il y a quelque chose qui revient à la personne qui est favorisée. Oui, je crois. C'est 2 ans et 200 000. Ok. Donc ça, c'est la peine encourue. Bah écoutez, on verra bien. C'est un juge qui va devoir trancher sur la culpabilité et sur la peine, comme d'hab. Imagine s'il est condamné à 2 ans de prison ferme à Fleury, par exemple, et là il fait comment pour défendre la réforme? Bah non. Mais il pourra pas. Ça ressemble à la justice politique d'extrême gauche. C'est vraiment urgent cette procédure? Ah! L'accusation du timing. Du mauvais timing. C'est classique, hein. L'accusation du timing. Les juges rouges qui essaye d'abattre des ministres en exercice. Les juges rouges qui portent l'hermine. Ouais. Bon, on l'avait déjà eu au moment de l'affaire Fillon. Le parquet national financier a ouvert une enquête en pleine élection présidentielle contre le candidat des Républicains. Est-ce que ça existe vraiment, les juges rouges? C'est une vieille accusation classique de la droite et de l'extrême droite aussi, sur une soi-disant cabale au sein de la magistrature qui serait remplie de communistes. Et qui prendrait un malin plaisir à affaiblir les gouvernements de droite en mettant en examen et en condamnant des personnalités politiques, etc. C'est à l'ancienne. Le PNF n'a jamais poursuivi quelqu'un dans un gouvernement de gauche. Bah, il a été créé par la gauche dans le cadre de l'affaire, enfin suite à l'affaire Cahuzac. Est-ce qu'il a poursuivi des gens de gauche? J'en sais rien. Je sais pas. Même temps, les gens de droite ont sensiblement plus tendance à tremper dans les affaires, d'où le mythe des juges rouges. C'est une question de point de vue, ça. On en est où de l'affaire de de favoritisme de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017? Je sais plus d'ailleurs, je sais même pas. Comment va la co Internet? Elle est réparée, c'est bon. Elle est réparée. Je crois qu'il a dit que c'était des juges bleus. Ouais, les juges qui te condamnent sont jamais de la bonne couleur. Ça, c'est sûr. Nicolas Bay mis en examen, tout le monde y a droit sauf les élus de gauche. Sont méchants ces juges, s'ils s'en prennent à la gauche, ils s'en prennent à la droite et ils s'en prennent au centre, c'est à n'y rien comprendre. Quatennens a été mis en examen, il a été condamné. Donc, ils font leur boulot. Bah, pff, oui. Avec leurs maigres moyens. Qu'est-ce qui nous... De quoi on parlait avant, je me souviens plus. Ah oui, non, on avait une discussion sur la probité et sur les convictions des politiques. Est-ce que les politiques ne sont que des êtres de cynisme, de calcul politique, de carriérisme et d'électoralisme? Ou est-ce qu'ils ont des convictions? Bruno Le Roux, ancien ministre de Hollande, a été poursuivi par le PNF. D'accord, ok. Ah, c'est vrai, Bruno Le Roux, j'avais oublié. Fabien Roussel est visé par une enquête du PNF pour des soupçons d'emploi fictif. Bon bah vous voyez. C'est juste une histoire de pouvoir et de contre-pouvoir, la démocratie, ouais, c'est ça. Ça, c'est une question de point de vue. Bah oui, exactement, c'est ce que je disais.
C'est ce que je disais. Mais je disais aussi que c'est un peu trop facile de considérer que seuls les politiques avec qui je suis d'accord ont des convictions, de nobles convictions et de nobles combats, alors que ceux du camp d'en face n'ont que du cynisme et de la tactique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Quand les politiques que j'aime bien répondent à une interview, c'est parce qu'ils font le nécessaire travail de conviction politique pour essayer de convaincre, alors que quand c'est ceux du camp d'en face, c'est dans le cadre de viles stratégies de communication électoraliste. La communication, c'est ce que fait le camp d'en face. Nous, on fait du plaidoyer, c'est pas pareil. Entièrement d'accord, ils font même de la propagande. Ouais, alors le mot propagande, en Europe, il est quand même très marqué historiquement autour de la communication d'État dans le cadre des régimes totalitaires. Les autres communiquent, nous on fait de la pédagogie. Ah bah faudrait savoir, je croyais que la pédagogie c'était un gros mot. Parce que Maillard était vraiment convaincu que la NUPES est un regroupement pro-LFI d'extrême gauche anti-républicain, antisémite et patati patata. Ah bah oui. Bah oui. Oui. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais c'est sa conviction. Vraiment, c'est comme dans la chanson de Pocahontas, ils ne sont pas comme nous, méfions-nous de ces voyous. Très belle ref, très belle ref, c'est validé. Le bon politicien, il convainc, le mauvais politicien, il persuade. Ça dépend si c'est nous qui faisons de la pédagogie ou si c'est les autres. Si c'est nous, ça va, c'est pas un gros mot. Ceci dit, je pense pas que Le Pen pense réellement tout ce qu'elle dit, mais elle en fait son business. Par contre, Zemmour, je pense qu'il y croit. Et je pense que c'est pire. Je pense que Marine Le Pen, elle est convaincue par son programme. Marine Le Pen est convaincue qu'il y a un problème d'immigration en Europe, elle est convaincue qu'il y a un déclassement de la France à cause de la mixité sociale et culturelle, elle est convaincue. Non, je pense qu'elle est convaincue. On voit toujours que les extrémistes du camp d'en face, Maillard a comme tous les militants un prisme déformé. Déformé, enfin il a un prisme en tout cas. Déformé de ton point de vue, mais oui, il a un prisme. Y a des gens qui pensent que l'extrême droite, ça commence à En Marche et que ça va jusqu'au bout du spectre. Bon, bah Maillard, il considère que l'extrême gauche, ça commence au PS. Bah écoute, qu'est-ce que je te dise, son point de vue, hein. Tu penses que Macron est convaincu quand il dit que les Français l'ont élu pour faire la réforme des retraites? Ah bah oui. Il avait promis la retraite à 65 ans. La droite, ça commence au NPA, je rappelle. Oui, c'est vrai. La droite, ça commence au NPA. C'est une blague, hein. Calmez-vous. Enfin, c'est une blague. Il y en a qui le pensent. Et Éric Zemmour, je vous rappelle qu'il considère que Marine Le Pen est de gauche, hein. Donc pour Zemmour, la gauche, ça commence à Le Pen. Ça aussi, c'est une blague? Non, 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 c'est. Il y a des gens qui ont quitté le NPA en 2021, qui s'appelle Révolution Permanence, autour d'Anas Kazib, et dans leur communiqué pour annoncer qu'ils quittaient le NPA, ils ont dénoncé la droitisation, je cite, du NPA. Et donc, nous, ça nous a fait marrer. On en avait parlé avec le chat à l'époque. Et du coup, il y avait des gens dans le chat qui avaient découvert qu'il y a des gens qui trouvent que le NPA, c'est un parti un peu trop à droite. Et donc, du coup, voilà. Et donc, pareil, de l'autre côté du spectre politique, Éric Zemmour, qui a longtemps expliqué que Marine Le Pen était une femme de gauche. Et ça faisait un peu marrer tout le monde. Voilà. Donc, c'est tout. Il y a des gens qui voient les choses comme ça, hein. Économiquement, elle n'est pas de droite, cela dit. Encore une fois, je ne suis personne pour attribuer des médailles ou des anathèmes de droite et de gauche. Je vous laisse être juge. Seul Dieu jugera. Dieu ou les électeurs, hein. Finalement, le peuple souverain n'est-il pas un dieu? Un démiurge. Merci, MD Benac, pour ton sub, merci beaucoup. Merci pour ton abonnement, merci pour votre soutien, les copains. Merci, ça fait plaisir. Merci à l'illustre inconnu qui a acheté un mug. Après, le positionnement, c'est tellement hasardeux. Chacun a sa droite et sa gauche bien fixe dans sa tête. Ah oui, non, non, mais c'est. La gauche et la droite, c'est. C'est contextuel, c'est subjectif, c'est évolutif. Pas de problème. Bizarrement, il n'y a pas grand monde pour dire que tel ou tel parti est trop ou pas assez au centre. Bah, c'est parce que le centre français, c'est un positionnement relatif aux deux autres camps, donc forcément, c'est compliqué d'être trop au centre. Saleté d'extrême centriste. Zemmour a dit que Pécresse était de gauche. Ouais, Pécresse, c'est Marine Le Pen, ouais. Est-ce que tu penses que l'extrême centre existe? Non. Mais ça a pas beaucoup de sens. La notion d'extrême renvoie à une radicalité des positions. Dans un axe, enfin, extrême centre, ça n'a pas beaucoup de sens. T'as une culture politique du centrisme en France, qui est assez ancienne, qui très républicaine, très européenne, très libérale, historiquement encore que, pas tous de la même manière. Et enfin, quand je dis libéral, faut faire attention parce que c'est pas vraiment des libéraux à la britannique, c'est plutôt des libéraux à la française, quoi. Quand même plutôt protecteur et plutôt défenseur d'un fort interventionnisme de l'État. C'est ce qu'expliquait, je crois que c'était Hervé Marseille qui l'expliquait très bien en disant que enfin, ce qui différencie fondamentalement le centre-droit de la droite libérale à la Madeleine, etc., c'est que le centre-droit considère que le fort taux de protection sociale qu'on a en France n'est pas un handicap, mais plutôt un atout. dans la compétition internationale, que l'attractivité du pays se mesure aussi à la qualité de nos services publics, à la qualité de la protection sociale et tout. Et ça, typiquement, c'est un truc avec lequel un vrai droitos va pas être d'accord. Enfin, un libéral, Alain Madelin, va pas être d'accord avec ça. Donc, il y a historiquement des débats entre les radicaux, le MoDem, l'UDI, sur l'héritage de l'UDF, etc. Merci Bucky et merci Choco, merci beaucoup pour vos subs et vos resubs. Les libéraux peuvent être d'accord avec ça. Bah oui, d'autant que le libéralisme, lui aussi, il a 50 nuances de libéralisme. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des libéraux radicaux en France. T'en trouves plutôt aux États-Unis, au Royaume-Uni. En France et en Europe continentale. Oh, si t'en as quelques-uns aussi en Europe du Nord, tu me diras. Bon, encore. C'est vraiment la tradition protestante. Un peu particulière. Mais en France, je veux dire, on a quand même 5-6 siècles d'interventionnisme de l'État dans l'économie qui n'est pas regardé avec horreur par la classe politique. Donc, il est encore en vie, Madeleine? Je sais pas. Je crois, oui. Mais tu crois possible une dissolution dans l'année? Peut-être, je sais pas, ça va beaucoup dépendre du débat retraite, hein. La tristesse du live, Usul est mort. Bah, hésite pas à mettre l'ambiance, hein. Les subprimes, ça contribue aussi à Baxit? Pas directement, non. Non, mais là, c'est un petit live chill du samedi, hein. On papote. Moi, j'aime bien discuter avec vous. On discute, on se raconte des trucs, ça fait plaisir. Est-ce que Chloé va revenir? J'espère. L'IVG, sinon, ça donne quoi? Le Sénat a voté sa propre écriture du texte. Donc il y a peu de chances que ça aboutisse. Tu vas pas boire une bière? Ce soir? Il est quelle heure? 21? Non, 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 non. Non, 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 je me lève tôt demain. Baxit, c'est pas un peu trop comme à la télé? Bah, c'est en 16/9, quoi. Il y a des caméras qui filment des visages, qui parlent dans des micros. Super émission ce jeudi, le format podcast est vraiment l'un des mieux. Ah ouais, tu l'aimes bien en podcast? Ça te manque pas de pas avoir les images? Tu te définis comment politiquement? Déjà, je ressens pas le besoin de me définir, je m'en fous pas mal. Et ensuite, bah écoute, je suis un démocrate antiraciste. Après, tu me classes où tu veux. J'en ai, comme qui dirait, vraiment pas grand-chose à foutre. Ça va, Claire? Elle fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait du droit, je suis juriste. Juriste publiciste, comparatiste, constitutionnaliste. Je te classe à Dallas. C'est bac plus 5. Ouais. Ouais. Ça va, je babysite mon neveu ce soir. Une certaine idée d'un samedi soir de folie. Wouhou! Papa, 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 papa. Est-ce que tu as déjà joué à Disco Elysium? Non, jamais. À ton avis, quel est actuellement le meilleur support du débat politique disponible pour un individu quelconque? C'est quoi un support de débat politique? Enfin, je sais pas, ça dépend de toi. Les publicistes sont les meilleurs, évidemment, évidemment. Présomption irréfragable de supériorité du publiciste sur le reste des juristes. Ça dépend des parties. Pour les chroniques avec des visuels, c'est un peu dommage de pas avoir d'image, mais pour les interviews, c'est moins gênant. Ouais, ok, d'accord. Non, mais très bien. Moi, j'aime pas écouter des podcasts. J'ai pas l'habitude et j'aime pas trop écouter des podcasts. Donc, du coup, mais donc tant mieux hein, si ça vous plaît. Si ça vous plaît. T'as parlé de l'élection de Flory à la tête du Parti Pirate International. Non, j'en ai pas parlé. Parce que j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Flory Marie, qu'on avait reçue sur le plateau de Baxit l'année dernière, qui était représentante du Parti Pirate, porte-parole du Parti Pirate français, a été élue le week-end dernier présidente du Parti Pirate International. Voilà. Mais j'ai pas grand-chose à en dire. En parlant de libéraux, suite à ton conseil, j'ai commencé la suite David Linard, c'est un peu gratiné. Ah ouais? La vie d'Adèle, c'est super drôle. Ouais, c'est très cool la vie d'Adèle. Est-il possible d'être un homme politique et parler vrai? C'est-à-dire? Ça veut dire quoi parler vrai? Qui est le juge du vrai? C'est quoi le Parti Pirate? Parti Pirate, c'est un parti qui existe depuis une dizaine d'années, qui existe dans plein de pays en Europe et aux États-Unis. Et c'est un parti qui est fondé essentiellement sur la défense des libertés individuelles, sur la défense de l'économie du partage, sur Internet notamment. Voilà. Et ils sont contre la... Ils sont contre l'utilisation des technologies à des usages... à des usages enfin policiers. Voilà. Parler vrai, c'est donner le montant des aides dont profitent les entreprises. Et tu les as, les montants des aides? C'est les geeks libéraux pour caricaturer. Ils sont plus proches des écolos que d'autres choses, hein. Il n'y a que des cassos dans ce parti. Est-ce que tu t'estimes meilleur, toi? Impressionne-nous, je t'en prie. Le Parti Pirate de 2006 n'a rien à voir avec celui de maintenant. Ouais, le Parti Pirate français a été refondé en 2018, je crois. Donc c'est très différent, ouais. Non, ça a pas mal changé, ouais. Très technosolutionniste au début et un peu libertarien. Ouais, non, ça m'étonne pas. Non, mais ça a pas mal changé, le Parti Pirate. En tout cas, français. Après, les autres, j'en sais rien. Mais ouais. Ouais. Après, ils ont des élus au Parlement européen. Ils ont des élus... ils ont des ministres en République tchèque, je crois. Gaspard Koenig, qui s'était déclaré à la présidentielle en 2022, est libéral. Gaspard Koenig, ouais. Oui, Gaspard Koenig se définit lui-même comme libéral, oui. Il est en gros l'héritier de l'école du libéralisme radical français, d'Alain Madelin, de Parisot, d'Alternative libérale qui n'existe même plus d'ailleurs, je crois. Il y a toujours eu en France un petit cercle de libéraux radicaux. Et aujourd'hui, c'est Gaspard Koenig qui a repris le flambeau. Grâce à la refonte des retraites et le discrédit consécutif de la gauche quand Marine Le Pen prendra le pouvoir après Macron, est-ce que Baxit pourra continuer à faire des émissions? J'ai rien compris. Même en y mettant du mien, je comprends pas où tu veux. Je comprends pas le. C'est quoi la différence entre extrême et radical? En gros. La notion d'extrémisme renvoie à un jugement de valeur, donc c'est plutôt dans le langage courant ou journalistique ou dans le débat public courant qu'on peut utiliser le mot extrême. La notion de radicalité est plus précise et chirurgicale, on va dire ça, et donc elle est davantage utilisée par les chercheurs. Les chercheurs qui travaillent sur les camps politiques, etc., utilisent pas trop le vocable d'extrémisme parce que c'est pas le rôle que de quantifier, qualifier et tout. Ils parlent de radicalité, des méthodes, des propositions, des stratégies, etc. Voilà. Donc la droite radicale, ça correspond, ça correspond de manière, c'est le vocable universitaire utilisé pour définir, pour désigner ce qu'on appelle l'extrême droite dans le langage courant. Voilà. Attention à ne pas confondre la radicalité et le radicalisme. Le radicalisme, c'est une école de pensée politique française, n'a rien à voir. Radical a une consonance plus neutre qu'extrême. Bah plus universitaire, quoi, oui. Oui, voilà, il n'y a pas de connotation ni positive ni négative, c'est froidement descriptif, quoi, la radicalité. Il n'y avait pas un parti radical. Il y a toujours un parti radical qui n'est pas radical. Le parti radical, surnommé le parti radical valoisien, puisque son siège est situé rue de Valois à Paris, place de Valois à Paris, c'est un des plus vieux partis politiques français. Il a plus de 120 ans. Et c'est un parti centriste. C'est un parti centriste. Voilà. Il y a un autre parti qui s'appelle le Parti radical de gauche, le PRG, qui est très vieux lui aussi, et qui représente les radicaux de gauche. Mais radicaux voulant dire radicaliste. Oui, c'est ça. En gros, le radicalisme, c'est une école de pensée politique historique qui remonte à la Troisième République, qui est radicalement républicaine. Et qui se place aujourd'hui du côté du gaullisme social. On va dire ça comme ça. La démocratie chrétienne. Quels sont les partis politiques très vieux encore présents aujourd'hui? Bah, le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical. C'est à peu près tout, hein. Pour les partis qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale, Les royalistes. Non, les royalistes n'existent plus vraiment. Le PS n'est pas très vieux sous cette forme-là. T'as raison. T'as raison. Le PS est une évolution de la SFIO. Tu mettrais le radicalisme du côté de la démocratie chrétienne, ils n'étaient pas radicalement anticléricaux. Si, 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 ils sont ultra laïcs, mais la démocratie chrétienne, c'est très Europe du Nord, c'est très protestant, c'est. C'est des gens qui sont favorables à une protection sociale forte. C'est ça que je mets derrière démocratie chrétienne. C'est. Ouais, la CDU allemande. On va dire ça comme ça. C'est plutôt les cathos en France. Ça dépend lesquels. Il y a beaucoup de cathos en France, et il y a beaucoup de cathos différents les uns des autres. Hein. Ça n'existe plus, Alliance Royale, parti politique royaliste assez récent. Bah, ça, je sais pas si la structure existe toujours, mais en tout cas, on les, enfin, ils ont, je sais pas combien de candidats ils présentent à combien d'élections et comment et combien d'élections ils gagnent, tu vois. L'existence d'une structure, c'est pas ça qui définit l'existence d'un camp politique dans le paysage. Quand je dis que les royalistes n'existent plus, je veux dire les mecs, c'est devenu totalement anecdotique le royalisme en France par rapport à ce que ça a pu être avant-guerre. Voire même dans l'immédiate après-guerre, un petit peu. Bruno Gassiot veut lancer une nouvelle version des Guignols de l'info. Bonne idée pour réouvrir l'actu politique au grand public. Ce qui faisait que les Guignols de l'info, ça parlait au grand public, c'est que c'était à la télévision sur Canal en clair. Sur Internet, il va falloir le positionner différemment. Mais oui, j'ai vu le projet Les Marioles. Bah, écoute, je ferai comme vous, je regarderai. Macron est royaliste. Dérapage de l'analyste politique français. Pourquoi? Me demandais, t'as regardé la série Les Sauvages? Non, j'ai pas regardé Les Sauvages. Que penses-tu dans un état démocratique, l'utilisation du 49-3? Va regarder sur ma chaîne YouTube, je réponds à cette question. Le FN n'avait pas absorbé une partie des royalistes. Si, 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 justement, c'est l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen qui, dans les années 60-70, a absorbé tout un tas de groupuscules d'extrême droite, dont certains royalistes, pour les fédérer au sein du Front National. Tu devrais, c'est hyper bien. Ah bah faut que je regarde alors. C'est quoi le raisonnement du royaliste?
Bah non, mais non mais enfin les bah, qu'est-ce que je te dise, les royalistes c'était surtout au 19e siècle les gens qui étaient pour la contre-révolution qui voulaient restaurer le pouvoir du roi sur le trône. Alors après ça a évolué le royalisme parce qu'évidemment ils sont pas restés arc-boutés sur le truc sur le sujet, ils ont évolué, il y en a qui sont devenus bonapartistes, il y en a qui étaient plutôt côté Charles X et qu'on a appelé les orléanistes qui étaient plus libéraux. Alors libéraux attention au sens 19e siècle du terme, c'est-à-dire plus favorables aux libertés politiques. Donc, qui était OK pour une monarchie constitutionnelle qui cohabite avec un parlement, etc. C'est ça le monarchisme, enfin, le royalisme. Mais bon, la question a été tranchée à la fin du 19e siècle. Il n'y aura plus de roi en France. Et donc, depuis, le royalisme, bon. Après, ce qui s'est passé, c'est c'est Charles Maurras, qui était un penseur de l'extrême droite des années 20 et 30 et 40, qui a théorisé la mutation de l'extrême droite, du royalisme, et donc de la rancœur de la Révolution française, vers un patriotisme exacerbé, un nationalisme assez typique du XXe siècle, et qui fait que la question est plus prioritaire de savoir si on fout un roi sur un trône ou un président fort, peu importe. Donc voilà, c'est pour ça que la question, même à l'extrême droite, a été relativement tranchée à ce moment-là. Mister Pan qui vient le 2 mars, trop bien. Charles X, c'était un Bourbon. Ah, je confonds avec Louis-Philippe alors. D'Orléans, oui, c'est ça, les orléanistes, oui, Louis-Philippe. Donc voilà, donc le monarchisme. Les monarchistes. Pour un grand nombre d'entre eux, on rejoint Pétain pendant la collaboration, et ensuite ont lié leur destin à celui du reste des collabos après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont fondus dans l'extrême droite de l'après-guerre, quoi, voilà. Tu peux répéter le nom de l'auteur dont tu viens de parler. Charles Maurras. Charles Maurras, qui était rédacteur de l'Action française, je crois, qui est un des penseurs les plus importants de l'extrême droite, puisqu'il a été justement l'homme qui a fait passer, qui a transformé l'extrême droite française, et qui a théorisé une nouvelle manière d'envisager le rapport à la France, à la nation, à la patrie, etc., de l'extrême droite. Qui faisait plus du rejet de la République, le en même temps, s'ils rejetaient complètement la République, c'était les anti-parlementaires, hein, extrêmement violents, surtout très très antisémites. Mais la droite, l'extrême droite, enfin il y a le général Boulanger avant dans les années 1880, la droite et l'extrême droite a une histoire. Marqué par des hommes, des penseurs, des écrivains, etc., qui ont. Et donc Charles Maurras, c'était les années 20 et 30 et 40. Jean-Marie Le Pen, c'est les années 70, 80, 90. Voilà. Il y a des grandes figures de l'histoire de l'extrême droite qui ont chacun marqué leur temps et fait évoluer l'extrême droite. Salut, Mr. Fox! Drummond, Déroulède, ouais, bien sûr, on pourrait sortir une liste longue comme le bras de théoriciens de l'extrême droite, bien sûr. Zemmour, il se voit comme le nouveau Maurras. Bah, il n'a pas complètement tort dans le sens où Zemmour essaye de réinsuffler à l'extrême droite une lecture ethnoculturelle de la nation française, ce qui en fait est très maurrassien. C'est très très maurrassien comme manière de lire l'actualité. Donc, ouais.
Si tu nous fais un mug plus beau, en vrai, je sponsor Backseat volontiers. Bah, on en fera d'autres alors des mugs, t'inquiète. T'inquiète? Je débarque un peu, il y a un sujet lancé. Non, 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 Mr. Fox, il n'y a pas de sujet particulier. On papote, c'est un stream assez détente du samedi soir. On se détend, on parle de tout, de rien. Tout à l'heure, on a parlé du cynisme en politique. Après, on a parlé des idéologies. Là, on est en train de parler de l'extrême droite. Je sais pas très bien pourquoi. Moi, je reçois si tu fais des meilleures playlists. Ah, j'ai vu ton message. Oui, faut que je le dise à Pemph. Tu as raison. Moi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi les boulangers mettaient autant de farine dans leurs baguettes tradition au point de s'en foutre partout dès qu'on coupe une tranche. Ah, vous êtes chiant. Je suis venu te regarder sur les conseils de Samuel Etienne, je le regrette pas. J'irai voir Baxit à l'occasion, c'est sur quelle plateforme? Mais c'est sur Twitch! C'est le jeudi soir. Merci Mr. Fox. Qui c'est qui a resub du coup? Merci beaucoup. Vous avez dit quoi sur le cynisme au final? On a dit que tous les hommes politiques, sans exception, étaient des êtres de cynisme, de calcul, d'électoralisme et de démagogie, qu'aucun n'avait de conviction, qu'ils étaient tous à la recherche du pouvoir pour lui-même, et de l'argent, et de l'influence, et de la fame, etc. Voilà. Et on a commencé la phrase par de façon. Voilà. C'est à peu près la conclusion sur laquelle on est arrivé. De façon, c'est rien que des pourris, incompétents. Sauf David Douillet, sauf David Douillet, parce que David Douillet, lui, voilà, il a des convictions. Mais les autres. Puis de toute façon, les politiques, ils font rien que de la communication, qui en réalité est une manipulation. Qu'ils appellent pédagogie. Oui, qu'ils appellent pédagogie, oui. Oui. Façon, faites des recherches. Faites vos propres recherches, hein. Mais faites vos propres recherches, pas dans les sources manipulées par les puissants. Allez chercher des sources alternatives indépendantes, comme par exemple facebook.com, youtube.com ou Russia Today. Allez pas regarder les merdias. Parce que eux, ils essaient de vous manipuler. De toute façon, ils sont de mèche avec les puissants. François. Ah ouais, François. Ah ouais, ben non, Russia Today, ça n'existe plus. Parce qu'il dérangeait trop le système. Du coup, allez voir François. C'est un des derniers espaces de liberté sur Internet. Bonsoir Jean, ça va? Je suis allé voir Baxit avant-hier, c'était très bien. Non, c'est nul Baxit. Baxit, c'est un féodé au pouvoir. Baxit, c'est macroniste. Et en même temps de droite et de gauche. C'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, Backseat, c'est produit par un ancien collaborateur d'une ministre de François Hollande, ce qui est bien la preuve que c'est un truc inféodé au pouvoir. Backseat, c'est l'idiot utile du système. Ouais, c'est ça, c'est l'idiot utile du système. Mais c'est pire que l'idiot parce que l'idiot, on peut lui pardonner d'être idiot, il le sait pas. Backseat, c'est
volontaire. C'est volontairement une manipulation des jeunes. Baxit veut détruire le candidat Francis Lalanne pour contrôler les médias. Oui, Baxit fait campagne contre Francis Lalanne parce qu'ils savent très bien que Francis Lalanne représente le plus grand danger pour le système et que Francis Lalanne, il a la solution, lui. Mais que si on lui donne jamais la parole, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il dérange. En fait, même pour rire, ça me rend triste qu'on dise ça de Baxit alors que Baxit, ça tue. Mais non, au contraire, Mr. Fox, c'est trop bien. Il faut que les gens ils disent ça de Baxit. C'est très important. Le bad buzz est meilleur que le buzz. Ça, on le sait très bien. Le good buzz, ça ne marche, ça n'existe plus. Ça a été théorisé 1000 fois. Moi, j'ai besoin que les gens qui détestent Baxit le disent plus fort. C'est le meilleur moyen de faire de la pub pour Baxit, c'est que les gens qui n'aiment pas Baxit continuent à le dire. Et je rigole pas, hein. Ça fait partie de la stratégie de com, d'ailleurs. On parlait de cynisme et de communication. Voilà. C'est la stratégie shitstorm de Trump. Ah oui. Mais c'est aussi une stratégie qui est assumée de plus en plus par les marques, etc. Les gens qui font du hate watch, les gens qui font du react, etc. Participent à la fame de Baxit. C'était un truc d'anarchiste à l'origine. Les anarchistes, c'était autre chose, hein. Ils faisaient la propagande par le fait, ils posaient des bombes, ils butaient des gens dans l'espoir de d'allumer l'étincelle de la révolution internationale. Ils allumaient pas grand-chose de plus que leur casier judiciaire, mais bon. D'où vient le nom Baxit? Ça vient du chat. Et c'est même pas une blague, hein. C'est le chat qui a décidé du nom. Les anarchistes voulaient qu'on les déteste pour qu'on parle d'eux. Ah bah ça a marché. Toi, t'as encore écouté le podcast de Thomas Legrand? Ah bah je les écoute tous les podcasts de Thomas Legrand. Mais il y a aussi Tancrède Ramonet, bah, d'ailleurs, qui est interviewé par Thomas Legrand, qui avait fait une série documentaire il y a quelques années sur l'anarchisme. C'est quoi les prochains gros rendez-vous à l'agenda politique que Baxit va honteusement colporter dans la sphère mainstream? De toute façon, Baxit, c'est des gens qui ne font que surfer sur le buzz médiatique de l'actualité politique. Ils ont la paresse intellectuelle, alors qu'ils pourraient donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais. Ils décident de parler de l'actualité politique, comme si on n'en parlait pas déjà assez à la télévision. C'est la preuve que Baxit n'est rien d'autre qu'une pâle imitation de la télévision sur Twitch. Alors que nous, ce qu'on veut sur Twitch, c'est entendre Frédéric Lordon parler pendant 3 heures d'affilée sans interruption. Et du coup, ces salauds de Baxit, les connaissant, parce que je les connais un peu, je pense qu'ils vont suivre de près l'évolution du débat autour de la réforme des retraites. La loi immigration qui va arriver en discussion également, l'évolution de la guerre en Ukraine, la préparation des élections européennes. Voilà quoi.
Nous, ce qu'on veut sur Twitch, c'est voir Mélenchon jouer à un mage nain sur World of Warcraft. Meilleur somni, Lordon. Ah ouais, non mais Lordon, c'est comme Jean Covici, hein. C'est la gouroutisation du débat public. Jean invite tous ses potes dans son émission. Ah bah non, justement. C'est qui Lordon? Frédéric Lordon, c'est un économiste qui fait partie de l'école des économistes atterrés, donc des économistes de gauche, qui développe des thèses qui sont très très proches de celles du populisme de gauche, de Chantal Mouffe, et de critiques même assez radicales du système capitaliste, dont il souhaite d'ailleurs l'abolition, et il est connu sur Internet parce qu'il a un sens de la formule qui fait qu'il y a des conférences de Lordon qui durent des heures et que les gens qui aiment bien, enfin les gens qui sont proches de ses idées politiques adorent le regarder pendant des heures parce qu'il envoie des punchlines, il est très radical, etc. Différent du populisme LFI. Non, 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 c'est le même. C'est la stratégie, bah c'est la stratégie du populisme de gauche théorisée par Chantal Mouffe. Mise en œuvre par Jean-Luc Mélenchon. LFI risque pas de se séparer en deux? Si, on verra. C'est qui Chantal Mouffe? Chantal Mouffe, c'est une chercheuse, une politologue, qui a écrit un livre il y a quelques années maintenant qui s'appelle Pour un populisme de gauche, dans lequel elle théorise. Ce qu'on appelle du coup le populisme de gauche, et qui est en gros la stratégie d'action politique mise en œuvre par la France insoumise en France, par Podemos en Espagne, par Syriza en Grèce, par une partie du Labour au Royaume-Uni. Voilà. Populiste, c'est un gros mot. Pas dans la bouche Alors, c'est un gros mot dans la bouche de beaucoup de gens, mais c'est revendiqué par une partie de la gauche populiste. Avec Ernesto Laclau. Oui, avec Laclau, c'est vrai, elle n'a pas fait tout ça toute seule. Avec Laclau aussi. Ouais. Est-ce que le mot communiste ou trotskiste, c'est mal? Je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Enfin, moi, je suis pas là pour donner des. Je suis pas là pour vous dire ce qui relève du bien ou ce qui relève du mal. Hein. Faites-vous vos opinions de votre côté, je m'en fous. Voilà. Non, communiste, c'est revendiqué, c'est aussi utilisé comme un anathème. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas comment répondre à ta question. Jean Massier approuve. Ah non, non, mais moi je suis pas là pour mettre des seals of approval sur quoi que ce soit. Hein. Le bacillus of approval. Le nazisme, c'est pas ouf. Ouais, oui, c'est vrai. Le nazisme, c'est pas top. Le racisme, c'est de la merde. L'antisémitisme aussi. La misogynie, l'homophobie, pareil. LFI est gazeux, donc par essence indivisible. Oui. Faudra le rappeler. Faudra le rappeler à LFI quand Clémentine Autain et d'autres créeront leur propre parti. Que Mélenchon criera à la division. Faudra lui dire, attendez Jean-Luc, c'est gazeux. On peut pas diviser un gaz.
Par contre, un gaz, ça peut être inflammable. En vrai, je la retiens, celle-là, ça va être drôle. Blague de chimiste, j'approuve. Désolé si la question a déjà été posée, mais peut-on encore parler de démocratie si le gouvernement peut tout faire passer avec le 49-3? Va regarder sur ma chaîne YouTube, tu verras, je réponds à cette question. Je trouve que ce serait plus simple, un parti de gauche identifiable, exemple DT, démocrate et travailleur. Les planètes gazeuses ont un noyau qui garde le gaz dans l'atmosphère. Putain, c'est génial. Ah ouais, c'est trop bien. Un parti de gauche identifiable, genre parti de gauche? Ou un parti qu'on appellerait le Parti socialiste? Ou un autre qu'on appellerait le Parti communiste français? Bon, après, il y a les relous qui peuvent pas s'empêcher de dire Europe, écologie, les verts, personne comprend rien. Pourquoi ils mettent une couleur? C'est débile. Mais bon, tout le monde les aime bien, ils sont écolos. Parti de gauche, mais pour aller où? France gauche. France gauche, les rouges. France gauche. Voilà, France gauche. Macron, il a créé les maisons France Service. Pôle emploi va être baptisé France Travail. Je propose qu'on crée un parti qui s'appelle France gauche. Merci Fufu Lamène pour ton resub. France Nation Verte. Les démocrates de France. Viendez en gauchis. Un parti démocrate. Ah, il y a déjà le mouvement démocrate. C'est pas un parti, c'est un mouvement. C'est gazeux, c'est très gazeux, hein. Ce serait bien si les élus de gauche étaient capables de répondre intelligemment à leurs détracteurs et arrêter de crédibiliser la droite avec la pauvreté de leur capacité rhétorique. Vraiment, sur les retraites, c'est flagrant, le RN et LR apparaissent plus crédibles qu'eux alors que c'est des clowns. Tu poses la question sensible de l'image que l'on renvoie de soi et de son camp lorsqu'on se comporte comme un con dans les débats publics. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet sensible. Autrement appelé, les militants de gauche sur Internet ne sont-ils pas des repoussoirs vivants à électeurs? Racing Club de gauche. Shotfired. De la même manière que Marine Le Pen, à partir du milieu des années 2000, a commencé à dire que dans ses meetings, il fallait interdire l'entrée aux crânes rasés, Bombers et Doc Martens. La gauche doit-elle se dédiaboliser en interdisant l'accès au Sarwell, Dreadlocks? Allez dehors les rastas blancs. Costard obligatoire, oh l'enfer. Les antifas dehors. Le Black Bloc est-il utile à la gauche? Vous avez 4 heures. Ça, c'est un débat qui anime la gauche de la gauche depuis tellement longtemps. La preuve que l'uniforme peut être une solution. Alors que le ping block, tout le monde adore. J'avoue, tu fais un ping block. Quand tu dis que ça anime les débats, il y a réellement des débats sur ce sujet. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, et pour le coup, il y en a toujours eu, hein. Il y en a toujours eu. Regarde écoute le podcast de Thomas Legrand sur l'anarchisme. Il t'explique comment, au 19e siècle, il y avait déjà des débats à la gauche de la gauche, sur la méthode, en fait. Est-ce que faire des attentats, c'est vraiment utile? À part se faire détester par tout le monde? Donc c'est. Non, non, c'est important. Et c'est des vrais débats qui animent la gauche de la gauche. Que faut-il faire? Quel militantisme est le plus efficace et le plus utile, etc. Oh, oui. Que faire? Écrit par Lénine. Oui. Quand ce sera la conscription, ça filera droit et les pieds gauches seront P4. Tandis que la droite, elle est animée par quel débat? Elle est animée par plein de débats, la droite, elle aussi. Bah tiens, vous voyez, je rigole pas, hein, quand la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, c'est vraiment ça qui a changé, entre autres, ce qui a changé Marine Le Pen quand elle est arrivée à la tête du parti dans les années 2000. Elle a interdit les néo-nazis, les crânes rasés, les tronches de skinhead, etc. Elle a dit ça dégage, mais je vais plus les voir. Sinon, à chaque fois, les caméras, les films, ça montre une très mauvaise image du parti, etc. Donc l'image du FN, c'était ça, hein. Elle a rompu avec pas mal de tarés, qui grenouillaient autour du parti et de son père, etc. Elle les a dégagés. L'épuration, ça reste fasciste. Comment dire? Le fascisme n'a pas le monopole de l'épuration dans l'histoire du XXe siècle. Pas si d'accord avec ça, ce fut un relooking plus qu'une purge. Oui, bien sûr, c'est un relooking, mais c'est parce que l'enjeu d'image était important. Et bah ça a fonctionné, hein. Ça a participé à fonctionner. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais l'augmentation dans les urnes du nombre de votes FN est due en grande partie à cette image que Marine Le Pen a commencé à véhiculer de plus en plus, de partis respectables, fréquentables. Hitler aussi voulait relooker l'Allemagne. C'est Nicolas Patin, l'historien à l'université de Bordeaux, qui a fait une conférence fascinante sur la stratégie électorale du parti nazi en Allemagne dans les années 20 et 30, qui expliquait la stratégie mise en place par les nazis pour eux aussi avoir des gages de respectabilité, etc. Et tous ces jeunes qui défilaient avec des beaux uniformes,
ça envoyait une image de jeunesse, d'ordre, qui séduisait vachement les électeurs. La fameuse coupe de cheveux de la jeunesse hitlérienne. Ouais, alors après, c'était dans l'imaginaire des années du début du siècle, hein, des années 20, des années 30. Ça renvoyait à une idée d'ordre, de mobilisation, d'énergie. De Nicolas Patin, ouais. Nicolas Patin, un historien spécialiste de l'Allemagne, de la République de Weimar. Qui a fait plusieurs conférences, notamment sur le sujet de qui votait nazi, quel était le profil électoral du vote nazi en Allemagne dans les années 20. Nicolas Patin, ah, je vous invite, il est vraiment extraordinaire comme prof d'histoire. Il fait partie de la génération de la nouvelle école de la Seconde Guerre mondiale avec Johann Chapoutot, Christian Ingrao, etc. Il y a une expo à Strasbourg sur l'Alsace nazie, l'esthétique des affiches de propagande est dingue. Ouais. Voir l'excellent documentaire sur la nuit des longs couteaux dont il est l'excellent conseiller scientifique. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler des nazis là? Ah, parce qu'on parlait de Marine Le Pen. Oh, vous avez glissé, hein. Oh là là, vous êtes pas très neutre, hein, je trouve. Il y en a marre que vous disiez que les gens d'extrême droite, ils sont un peu d'extrême droite. T'as parlé de tronches de skinhead en parlant des meetings d'MLP. Bah justement. Oui. Le pouvoir de séduction du nazisme, c'est aussi le renouvellement d'une élite recrutée dans le parti. Oui, absolument. Tu nous accuses d'être pas très tolérants. Je vous trouve très intolérants, les tolérants. Les apôtres de la tolérance ne sont-ils pas les plus grands intolérants? Hein? Ça fait réfléchir, bah attends. Les antiracistes ne sont-ils pas les vrais racistes? Les misogynes ne sont-ils pas les nouveaux féministes? Finalement. Les hommes sexistes ne sont-ils pas ceux qui respectent le mieux les femmes? C'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Ah non, je vous rassure qu'ils revendiquent de nous chier à la gueule. Ouais, mais c'est la preuve qu'ils vous respectent pour ce que vous. Enfin, qu'ils vous reconnaissent comme digne d'intérêt, alors que les hommes soja, les prophèmes, c'est ceux qui vous méprisent vraiment. Je sais pas, j'essaye. Je suis nouveau. Hein, je suis nouveau. J'ai été recruté récemment chez CNews. Je connais pas encore très bien la rhétorique. J'essaye de m'y faire. C'est fatigant cet antinazisme primaire. Ah oui, c'est fatigant. C'est usant. C'est usant. Tu rames quand même. Non, mais je galère. Je vous dis, je suis nouveau. Faut que je m'y mette. Faut que j'écoute Elisabeth Lévy en boucle. C'est un atelier d'éveil au confusionnisme.
Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis animateur en maternelle. Je fais des ateliers d'éveil au confucianisme. Donc j'apprends aux enfants à devenir confus. Donc voilà. Le communisme n'est-il pas finalement la plus haute idée de l'individualisme? C'est... Voilà. Faut encore bosser un peu la rhétorique. Non, non, mais faut que je progresse. La rhétorique est pas top. Je sens que je tiens un truc, mais... Question everything, oui, c'est ça. Finalement, les scientifiques qui disent que le réchauffement climatique est dû à l'homme, ne font-ils pas de la doxa anti-scientifique? Ah mais non. Non, là, du coup, c'est plus France Soir. Ouais, non. Non, c'est le complotisme anti-vax. Le fait qu'aucune étude ne montre que les vaccins sont dangereux n'est-il pas la preuve que tous les scientifiques sont de mèche avec les labos pharmaceutiques? Je sais plus quoi dire, là, hein? Eh bien, il n'y a que la vérité qui blesse. Hein? Comme par hasard, je n'ai aucun argument pour prouver ce que je dis. C'est bien la preuve que j'ai raison. Tu crois que le système me laisserait avoir des arguments? Trop facile. On me l'a faite celle-là par des anti-vax. Ah, mais pour moi, c'est la meilleure argumentation du complotisme en général. C'est l'idée que le faible nombre d'arguments qui soutiennent la théorie est en soi une preuve que la théorie est valide. C'est le summum de la porie argumentative. Et c'est très intéressant à quel point ça forge une conviction. L'absence de preuve est la preuve de l'existence, exactement. Pile tu perds, face je gagne, exactement. Homéopathie stonks. L'opium des imbéciles de Rudi Reichstadt est assez intéressant sur la question. Ah oui, mais c'est vachement bien, Rudi Reichstadt, hein, ce qu'il écrit. C'est chouette. Est-ce que pour prouver ton hypothèse sur les complotistes, on pourrait regarder Hold Up? Oh non, non, on avait déjà essayé, c'était horrible. Hold Up, c'est de la torture. Avec l'interview du chauffeur de taxi, là. Moi, je croyais que c'était une blague. Mais non, c'est pas une blague. Il y a vraiment une interview d'un chauffeur de taxi. Donc si Baxit multiplie les invités, c'est pour cacher son manque de pluralité. Exactement. Exactement. Baxit est au service de rayer la mention inutile, la droite, la gauche, le centre, enfin les autres. Les décideurs. Baxit est au service du système. Ah ouais, non, 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 mais ça c'est démontré, ça. Ça c'est démontré.
Backseat vénère Jean Lassalle. Quel enfer. Jack Cheminade. Backseat au service de la droite, vu qu'il y a Usul et qu'il décrédibilise tout ce qu'il touche, il y a moyen, oui, en vrai.
Oh. Que vous voulez.
Peut-on parler de Jean Lassalle? Il me manque. Ah, moi, il me manque pas, non. Non, non. Les agresseurs sexuels en politique, quand ils partent, ils me manquent pas. Vous n'inviterez pas l'extrême droite dans Backseat, mais est-ce que vous inviterez un activiste classé à l'extrême gauche comme un membre des Black Blocs par exemple? Non. Non, non. T'en es où de la réflexion sur le Minouche? Je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. J'ai très envie d'adopter un chat, mais comme je vous le disais, c'est un chat qui est atteint d'une maladie et donc c'est une responsabilité importante de lui donner ses médicaments. Et donc c'est pas une décision qui se prend à la légère sur un coup de tête. Donc j'y réfléchis, j'en parle autour de moi. Pour l'instant, tout le monde me dit vas-y, fais-le. Tu veux mettre un coup de tête à un chat malade, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Ça reste moins contraignant qu'un chien. Oui, mais justement, ça peut être un piège. Ta décision est prise ou t'en es encore au stade du pour et du contre? Non, 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 la décision est prise. Enfin, faut que je prenne le temps de m'organiser, de me coordonner avec des voisins, etc. Je vais pas. Parce que c'est un petit chat que j'ai rencontré qui est absolument magnifique. Mais c'est pas parce que c'est un beau chat que ça retire l'importance de la question et de l'engagement. Attention, un chat malade émotionnellement, c'est dur, il y a beaucoup de complications. Oui. Pourquoi ce chat en particulier? Parce que je l'ai rencontré. C'est une association qui m'en a parlé et tout. Mais après, s'il y a un autre chat tout aussi beau et pas malade. Est-ce que c'est méchant de ma part d'adopter un chat pas malade, tu vois? Une fois que t'as rencontré un premier chat. Tu vois, c'est bon. Après, faut que je voie avec l'association et son actuelle famille d'accueil que j'ai rencontrée, qui sont très sympas et tout. Si jamais le chat se plaît pas ici, si jamais ça le fait pas, etc. Est-ce qu'on peut faire machine arrière? Est-ce que... Adopter un chat pas malade n'est-il pas du validisme? T'es chiant. Y a pas de mal à pas se sentir capable de s'occuper d'un chat malade. et lui préférer un chat pas malade. Bah, c'est un peu ce que je me dis, quoi. Ce sera ton premier chat? Seul, oui. J'ai déjà eu des chats par le passé. J'aime beaucoup les chats. T'as juste à dire que tu s'empares à la responsabilité d'assumer les soins adéquats, ils sont souvent compréhensifs. Ouais. Non, 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 mais l'association, ils sont trop cool, hein. Ils ont aucun problème avec moi. Au contraire, hein, c'est les premiers à me dire qu'il n'y a aucun problème si je change d'avis et tout. Mais après, j'habite seul à la maison. Je suis quand même là quasiment tous les soirs de la semaine. Quand je pars, c'est rarement plus d'un jour ou deux. Après, il y a les vacances, mais ça, c'est le problème de tous les propriétaires de chats sans exception. Là, tu viens de dire pourquoi tu avais besoin d'un chat. Non, je viens de dire pourquoi je pense être quelqu'un que si j'étais un chat, j'aurais envie de vivre avec moi. Il faut que le chat aime la politique. C'est vrai ça? Qu'est-ce que l'on pense du rapport de la Cour des comptes? Laisse-toi encore du temps de réflexion. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. En plus, il y a no rush, il n'y a pas d'urgence, je fais ce que je veux, tranquille. Tranquille. Il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas de. Est-ce que ce chat t'a touché émotionnellement? Bah oui, un peu, parce que c'est un chat absolument magnifique. Elle est très très belle. Quand je l'ai rencontrée, elle a commencé par me griffer. Parce qu'elle est très stressée. C'est un chat très très stressé. Par contre, je dois te prévenir pour pas que tu puisses être déçu. Même si ce chat est sublime, c'est toujours mon chat qui est le plus beau, c'est scientifique. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La mienne me feule dessus encore 15 ans après. Meilleur premier contact. Elle m'a fait une petite. Petite trace de griffure là. Ouais, les voisins peuvent être des super soutiens. Bah, c'est pour ça que j'aimerais bien rencontrer mes voisins, discuter avec eux. Quel âge? Elle a 9 ans. C'est un chat âgé. C'est un chat âgé qui a un problème cardiaque assez, assez important qui fait qu'elle doit prendre des médicaments tous les jours et qu'elle doit juste faire une visite de contrôle annuelle chez le vétérinaire, pas plus que ça. J'espère que tu viendras sur mon endroit faire 2 pour la saison 2, tes lives dessus me manquent. Peut-être. C'est aussi un coup. Oui, mais ça, je l'assume. Quand j'adopte un chat, j'assume que ça va me coûter de l'argent. Oui, bah oui. Les croquettes, les médicaments, la litière. La BMW. T'as de l'espace, un peu de jardin? Non, j'ai pas d'espace, j'ai pas de jardin. Et c'est un chat qui n'a connu que l'intérieur. Les chiens ont des maîtres, les chats ont des esclaves. Ah oui, totalement. Ah, moi j'adore les chats. Hein. Il a connu que l'intérieur, bientôt les affaires étrangères. Marine Le Pen, elle élève pas des chats, elle a peut-être des conseils, c'est vrai, il faut que je demande à Marine Le Pen. D'ailleurs, tu sais qui aimait bien les chats? Ah, oh, vous êtes con. Sur ces belles paroles empreintes de nationalisme et de socialisme, je vais y aller. Alors, est-ce qu'on fait un raid chez Gomard qui joue en ce moment à GTA Vice City? Quand même un jeu légendaire. Est-ce qu'on fait un raid chez Defend Intelligence qui fait un react sur qui veut être mon associé? Gomard? Defend Intelligence, Gomard? Defend? Alors, on va taper notre meilleur. Sondage. Hop. Je vous mets Gomard, Defend Intelligence et je vous rajoute étoile. Comme ça, vous avez un choix à faire entre trois. Qui c'est qu'on raid? Chez qui qu'on va continuer notre soirée de streamage? Chez qui vous allez passer une bonne soirée? Donc Gomard, elle est en train de jouer à GTA Vice City. Defend Intelligence, il est en train de faire du React. Et Étoile, il est en train de faire une nuit de la culture avec un de ses potes. Le tripartisme. Ah, la France est divisée, mais visiblement ça a l'air d'être Gomard, donc ça part en raid chez Gomard. Comment ça s'écrit?
Voilà, vous pouvez rejoindre le raid. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était cool. Passez une bonne suite de soirée sur la Twitcherie en compagnie de Gomard, qui joue à un de mes jeux préférés. Mettez-vous bien, je vous fais des bisous et je vous dis pas à demain parce que demain je suis à Bordeaux avec Libération. D'ailleurs, si vous êtes à Bordeaux, venez à Libé m'écouter prononcer de sages paroles. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Des bisous. Ciao, ciao.